Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'Atelier des médias de RFI. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous suivez notre podcast. Quelle place occupe l'Afrique dans les journaux télévisés en France ? L'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, a épluché presque une décennie de JT et nous apporte des éléments de réponse dans une étude publiée fin juin. On constate que, contrairement à RFI ou France 24, les grandes chaînes d'information françaises ne s'intéressent pas quotidiennement au continent africain et que quand elles le font, c'est rarement pour parler du quotidien, justement. Bonjour Géraldine Pouls.
Bonjour.
Vous êtes chargée de la valorisation scientifique à l'INA. On peut aussi préciser que vous êtes historienne et notamment penchée sur l'histoire des médias. Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment les équipes de l'INA ont travaillé sur cette étude intitulée « L'Afrique dans les JT » ?
Alors à l'INA, nous avons des équipes de documentalistes qui sont chargées d'indexer, c'est-à-dire de décrire en fait tous les programmes de radio et de télévision, ce qui produit un certain nombre de données qu'on peut analyser de manière quantitative pour faire un suivi thématique, ce qu'on appelle un baromètre, donc des journaux télévisés.
Pour cette étude, très spécifiquement, quels journaux télévisés ont été pris en compte ?
Alors, nos études baromètres portent sur les journaux des 6 chaînes dites historiques, c'est-à-dire TF1, France 2, France 3, Canal+, La 5 et M6, parce que ce sont les chaînes tout simplement sur lesquelles on a les données les plus détaillées.
Ça veut donc dire qu'il n'y a ni France 24, ni les chaînes d'infos en continu, type France Info, BFM TV, LCI ou iTélé, qui est devenue CNews.
En effet, pour l'instant, elles ne sont pas comprises dans le baromètre. Alors en fait, on travaille à les intégrer. On l'a déjà fait ponctuellement et on le fera davantage à l'avenir parce que maintenant, avec des nouvelles technologies, avec l'intelligence artificielle, avec des outils de transcription automatique, on peut obtenir des données en fait sur un plus large périmètre de chaîne, alors que les données sur lesquelles nous travaillons sont produites encore en grande partie manuellement pour l'instant.
Alors entrons dans le vif du sujet. De 2011 à 2019, selon le recensement de l'INA, l'Afrique a représenté 5,4% de l'offre d'information des chaînes de télévision françaises. C'est moins que l'Asie, 12%, mais tout de même un peu plus que l'Amérique latine, qui est à 2%. Cette proportion vous a-t-elle surpris ?
Non, c'est vrai que la hiérarchie par continent peut-être est un petit peu macro pour comprendre les phénomènes, parce qu'en réalité, quand on a fait notre étude sur l'Asie, on a constaté par exemple que c'était la Russie qui était le pays le plus médiatisé d'Asie. Cela dit, le fait que l'Afrique soit plus médiatisée que l'Amérique latine n'est pas vraiment une surprise pour des raisons tout simplement historiques de liens en fait entre la France et ses anciennes colonies qui font que l'intérêt des Français pour l'Afrique reste important.
Juste pour que l'on comprenne bien, vous avez recensé le nombre de sujets, donc ces objets éditoriaux de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes qui composent un journal, ou les citations de pays dans ces mêmes sujets ?
Alors on compte en effet des nombres de sujets, c'est-à-dire qu'au sein d'un sujet, en effet, un même pays peut être cité plusieurs fois et même des différents pays peuvent être cités. Donc là, on est bien en nombre de sujets et on n'est pas non plus en temps d'antenne, ce qui sera encore un autre indicateur sur lequel nous n'avons pas travaillé.
On va revenir sur les pays un peu plus tard, mais ce qui est intéressant dans votre étude, c'est qu'il y a des années où l'on parle plus de l'Afrique que d'autres dans les JT.
Oui, en fait, on voit qu'il y a des très très forts écarts à la moyenne avec des années creuses, avec 2% de sujets consacrés à l'Afrique, c'est extrêmement peu, et jusqu'à 12% en 2011, qui était une année où il y avait énormément d'événements en Libye. Et en Égypte, notamment, hein, 864 sujets pour la Libye, 613 pour l'Égypte, dans un contexte de révolution, de changement politique, vraiment majeur. Autrement, on retombe à une moyenne qui est en année standard, on va dire autour de 5% des sujets.
Et vous donnez un chiffre, 69% des sujets concernant l'Afrique dans les journaux télévisés français traitent de géopolitique, c'est-à-dire souvent des conflits.
Cela dit, je pense qu'il faut relativiser un petit peu, ça peut paraître énorme, c'est énorme de fait, mais c'est vrai que ça correspond aussi aux biais qui sont ceux des journaux télévisés, tout simplement, qui se focalisent sur ce qu'on appelle les hard news, c'est-à-dire justement cette géopolitique, ces conflits, etc. Donc c'est vrai pour tout l'international de manière générale, et c'est peut-être un peu plus fort encore en Afrique, mais finalement, c'est la conception même du JT qui explique cette focalisation sur les conflits.
Mais du coup, face à cela, seuls 1 à 3% des sujets seulement concerne l'économie, la culture ou encore la santé sur le continent.
Oui, en effet, ça donne à réfléchir sur la composition de l'information qu'on reçoit, sur le traitement dont ces pays font l'objet. On a toute une actualité qui reste quasiment invisible à la télévision, une actualité qui est pourtant très importante pour comprendre le monde dans lequel on vit, culturel, économique, social. Tous ces sujets-là sont en effet complètement écrasés par l'actualité géopolitique.
Il y a par ailleurs de grosses disparités selon les pays, Géraldine Pouls. Plus de la moitié des sujets, 57%, concernent seulement 5 pays.
Oui, en effet, donc l'Égypte, la Libye, le Mali, la Tunisie et l'Algérie ont concentré sur une dizaine d'années l'essentiel de l'attention des journaux télévisés. Donc c'est lié quand même à l'ampleur des mouvements sociaux, des révolutions qui ont lieu dans ces pays. C'est lié aussi pour le Mali au fait qu'il y a eu une intervention militaire française. On sait que dès qu'il y a une intervention militaire en Afrique, le pays remonte tout d'un coup et ponctuellement dans la hiérarchie, si on peut dire, des pays médiatisés. En dehors de ça, ça fait quand même tout le reste des pays qu'on peut considérer un peu sous-médiatisés. Alors bon, l'Afrique est un immense continent et il y a beaucoup de pays, donc voilà, une fois de plus, c'est pas complètement étonnant, mais ça fait quand même une forte focalisation sur 5 pays selon des logiques qui sont les logiques liées à cette actualité géopolitique et liées aussi un petit peu à l'intérêt de la France pour certains pays en particulier.
J'ai noté qu'un seul pays africain n'a pas du tout été cité dans les JT français sur la décennie, c'est Sao Tomé et Principe. À côté, on note aussi l'Iswatini, donc l'ex-Swaziland, et le Lesotho, deux pays d'Afrique australe qui n'ont bénéficié que d'un seul petit sujet chacun.
Et oui, en effet, les téléspectateurs français qui cherchaient de l'information sur Iswatini ont été un petit peu frustrés. Ce qui est intéressant, c'est au-delà de ces cas qui sont certes sous-médiatisés, mais bon, finalement, c'est pas très étonnant. Il y a quand même des pays avec une forte population qui ont aussi une actualité très riche et qui, pour autant, n'apparaîtront jamais dans les journaux télévisés. Qui doivent en effet faire des choix, qui doivent être toujours. Je sais pas si c'est contesté. On n'est pas forcément là pour critiquer le travail des journalistes, mais en tout cas, qui doivent être objectivés, qui doivent être présentés. Et il faut avoir conscience de ces biais, je pense, et c'est l'idée du baromètre.
Intéressons-nous maintenant aux personnalités qui apparaissent dans ces sujets, telles que dépeintes dans les JT français, l'Afrique est principalement masculine.
Oui, alors malheureusement, le monde est encore un peu masculin dans les journaux télévisés, c'est pas valable uniquement pour l'Afrique, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on a une focalisation sur la géopolitique, donc en fait sur les chefs d'État, eh bien il se trouve qu'en Afrique, en effet, la plupart des chefs d'État sont encore des hommes. Donc ça ne rend pas tout à fait justice à la réalité de la vie politique de ces pays-là, puisque on sait qu'on a des pays comme le Rwanda par exemple qui sont où la vie politique est très féminisée avec un parlement qui est paritaire, je crois, et quoi qu'il en soit, des réalités politiques femmes qui sont importantes, qui sont de premier plan dans un certain nombre de pays, c'est le cas en Afrique du Sud, mais c'est le cas ailleurs aussi, et en effet ces personnalités-là, compte tenu des biais, des prismes qui est celui du JT, n'apparaissent pas, ne sont pas médiatisés. Alors après, même si on s'en tient uniquement au chef d'État masculin, on est quand même avec des personnalités qui restent, je dirais quand même un peu mineures par rapport au paysage médiatique des JT, puisque la principale figure médiatisée qui est Kadhafi a fait l'objet de 45 sujets, ce qui sur 10 ans n'est pas non plus énorme.
Et comparativement, la femme la plus citée ne l'a été que 5 fois. C'est l'ex-présidente de la Commission de l'Union africaine, la sud-africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. 5 sujets en une décennie, donc.
En effet, donc c'est sûr que ça ne permet pas du tout aux téléspectateurs de se familiariser avec ces personnalités féminines, ces personnalités politiques féminines. Mais une fois de plus, de manière générale, les personnalités africaines sont très peu visibles sur les écrans. Alors après, là, on a parlé. C'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'il y ait des sportifs qui apparaissent pas ici dans notre top, notamment parce que des sportifs peuvent être médiatisés en tant que personnalités, par exemple européennes, s'ils ont des carrières internationales, donc c'est peut-être un biais. Mais si on se tient aux personnalités politiques, on a quand même des chiffres qui sont très faibles en termes de nombre de sujets.
En termes de nombre de sujets, justement, il y a des chaînes qui sont meilleurs élèves que d'autres. C'est le navire amiral de la télévision publique française, j'ai nommé France 2, qui est en tête en termes de nombre de sujets.
Oui, en termes de nombre de sujets, c'est en effet France 2 qui arrive en tête, qui a consacré donc le plus de sujets à l'Afrique sur la décennie, avec quand même plus de 3000 sujets, 3312. Néanmoins, si on considère la proportion de ces sujets consacrée à l'Afrique au sein de l'offre d'information de chaque chaîne. C'est Arte qui arrive en tête, qui affirme une fois de plus son statut de chaîne vraiment internationale et vraiment ouverte à l'international, avec plus de 10% de son JT quand même qui a été consacré à l'Afrique. Et avec une deuxième particularité, c'est aussi une ouverture en termes de diversité des pays médiatisés, qui est spécifique à Arte, qui est plus forte que sur les autres chaînes, avec moins la focalisation sur un trio ou un quatuor de pays de tête, et une médiatisation qui est ouverte à des pays comme la RDC, par exemple, qui arrive quand même dans le top 10 des pays médiatisés par Arte.
Précisons qu'Arte, c'est la chaîne franco-allemande de services publics. Ce n'est pas la première fois que l'INA s'intéresse à l'Afrique. Par rapport à vos précédentes études, avez-vous noté une évolution dans le traitement du continent, à la fois quantitativement et qualitativement, dans les journaux télévisés français ?
Non, je pense que là, avec la profondeur historique que nous permettent nos données, on peut désormais affirmer qu'il y a un certain nombre de traits qui sont assez stables en fait dans la médiatisation de l'Afrique. Une fois de plus, cette polarisation sur les conflits et sur la géopolitique, c'est une constante, même si c'est pas une spécificité de l'Afrique, c'est vraiment lié à au statut des JT, à leur nature et à leur logique propre. Mais c'est vrai que voilà, c'est a fortiori vrai pour l'Afrique, cette polarisation sur les conflits. On avait fait une étude précédente en fait qui portait sur l'année 2010, qui était une année un petit peu particulière, qui avait été dominée par le sport, puisque c'était l'année de la Coupe du Monde de football qui avait eu en Afrique du Sud. Et donc, ça faisait complètement exploser la catégorie sportive, mais ça n'a pas entraîné de changement dans la médiatisation de l'Afrique. Et donc, on voit bien que même des événements comme ça qui ont un écho mondial à un moment donné, qui permettent de mettre le focus et les projecteurs sur un pays, n'entraînent pas par la suite un changement, en fait, dans l'intérêt que peuvent avoir les JT, les journalistes pour ces pays-là. Par la suite, c'est vraiment des coups de projecteurs qui sont très ponctuels.
Les gens s'informent de plus en plus via Internet. Cette étude qui s'appuie sur les chaînes historiques fait-elle encore sens en 2020 ?
Quand on prend en compte l'audience de ces journaux télévisés, c'est vrai que je pense qu'on a tendance à déclarer un peu vite la disparition de la télévision, la disparition des JT historiques, dont on voit encore la durée que les Français consacrent chaque jour à la télévision, la durée d'écoute, elle reste massive, importante. Après, c'est sûr qu'il y a une diversification et qu'il y a une érosion qui est quand même là, qui est quand même une réalité, même si elle est lente. Il y a une érosion, il y a en effet la montée en puissance des chaînes d'information continue, mais par exemple, la montée en puissance des chaînes d'info continue à la télévision, on l'a observé très récemment encore, et elle est liée à des contextes qui sont très franco-français, à des centres d'intérêt qui sont franco-français. Par exemple, dans le contexte actuel, je ne suis pas sûre que BFM ait énormément davantage médiatisé l'Afrique. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir observer bien davantage à l'avenir, comme je vous le disais, puisqu'on va étendre notre périmètre d'études à ces chaînes d'information en continu. Et on peut le faire aussi avec Internet, donc on va faire ça pour le vérifier. Je pense que ça reste à vérifier et ça, c'est sûr qu'il y a plus d'informations, mais le temps que les Français peuvent consacrer à l'information est aussi contraint, il n'est pas extensible à l'infini. Donc il faut voir si une plus grande diversité de sources d'informations se traduit par une plus grande diversité dans les consommations. Et voilà, c'est un enjeu qui est très intéressant de suivre pour les années à venir.
Et vous nous disiez que l'intelligence artificielle allait de plus en plus être utilisée pour traiter les données. On peut en savoir plus ?
Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, on va déjà enrichir les données qui sont disponibles avec, par exemple, en utilisant des outils non seulement de transcription, mais aussi de reconnaissance d'images, qui nous permettra d'avoir aussi d'autres indicateurs. On pourra travailler peut-être de manière plus qualitative sur les images qui sont données d'un certain nombre de pays, par exemple. Donc ça, ce sont des outils que l'on est en train de développer actuellement. Et puis ensuite, on peut faire, en effet, grâce à l'intelligence artificielle, un certain nombre de repérages automatiques qui, là encore, nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension qu'on a de cette médiatisation qui est multifacette, puisque quand on travaille sur la médiatisation, il faut travailler sur des temps de parole, sur des temps de médiatisation, la durée des sujets, sur des nombres de sujets, sur le discours et sur l'image. Donc c'est l'intérêt de travailler, en effet, sur l'audiovisuel, c'est qu'il est multimédia, il est multidimensionnel. Et pour bien comprendre la médiatisation d'un sujet, il faut travailler sur toutes ces dimensions. Et pour ça, on est encore en train d'inventer les outils qui vont nous permettre de faire tout ça de plus en plus finement, en suivant aussi la médiatisation qui est de plus en plus en ligne, sur Internet, sur des podcasts, sur des web radios, etc. Donc ça, ce sont des choses auxquelles on travaille.
Merci beaucoup, Géraldine Pouls. Je rappelle que vous êtes chargée de valorisation scientifique à l'Institut national de l'audiovisuel. Le baromètre L'Afrique dans les JT est à retrouver sur le site institut.ina.fr.
Merci, au revoir.
Après cet entretien, je suis tombé sur un très bon article publié sur le site de TV5 Monde. Une sociologue des médias, Marie-France Malonga, y livrait son analyse sur les résultats de l'enquête de l'INA. J'ai décidé de l'appeler.
Oui, bonjour, je suis sur mon MacBook, vous m'entendez ?
Bonjour Marie-France Malonga.
Bonjour.
La faible présence de l'Afrique dans les JT, statistiquement confirmée par l'INA, ne vous a pas surprise ?
Non, effectivement, parce que c'est vrai que ça représente bien, si vous voulez, la marginalité de la représentation, on va dire, de l'Afrique et plus précisément des personnes issues du continent africain sur les écrans français. Donc c'est vrai que, quels que soient les types de programmes, c'est quelque chose qui est assez classique et qui montre bien, selon moi, effectivement, un manque d'intérêt pour l'ensemble du continent et voilà qui se traduit par une visibilité assez faible en termes de représentation.
En outre, en parlant de représentation, on note des représentations souvent négatives. Comment est-ce que cela s'explique ?
Je pense que ça s'explique par effectivement une représentation souvent stigmatisante, si vous voulez, négative certes, mais surtout stigmatisante des personnes issues du continent africain sur les antennes et dans l'information, dans la mesure où on les réduit à un certain nombre de thématiques qui sont anxiogènes et toujours sous le même thème, si vous voulez. Donc ça va être par exemple la question des guerres, les prises d'otages, les enlèvements, les crises politiques, la famine, tous les conflits, etc., avec une sous-médiatisation évidente d'autres types de sujets qui montreraient un autre type de représentation. Je pense qu'il faut voir ces représentations de l'Afrique de façon globale, des Africains et des personnes issues de ce continent, comme, si vous voulez, la continuité d'une représentation issue de nos imaginaires coloniaux, esclavagistes, etc., où on représente toujours l'individu anciennement indigène ou issu des minorités africaines sous l'angle de la menace, en fait, de la difficulté, de l'extraordinaire, etc. Et donc, c'est aussi, de façon plus large, une façon de... à mon sens, en fait, de justifier un petit peu la domination de l'autre. Je pense qu'il faut aller chercher assez loin, en fait, notre tentation de vouloir toujours mettre la visibilité sur des événements assez négatifs et qui donnent une représentation d'un continent qui serait effectivement dans le chaos. Alors après, c'est vrai qu'il s'agit d'informations internationales importantes, voilà, les guerres, etc., notamment celles dans lesquelles peuvent être impliquées la France, etc. Donc c'est effectivement logique, mais ça montre une certaine tendance qui est assez dommageable.
Et pourquoi en 2020 en est-on encore là dans des représentations de l'Afrique sur les principales chaînes de télévision nationale en France ?
Je pense que c'est parce que nous n'avons toujours pas déconstruit les représentations, en fait, et qu'elles se perpétuent les années, les générations avançant. Et que je pense qu'il n'y a pas assez, si vous voulez, de prise de conscience et de regard critique de la part des professionnels des médias, des professionnels de l'information sur cette question de représentation de l'Afrique et des Africains. Et que justement, je trouve que le fait qu'il y ait cette étude de l'INA qui sorte permet d'engager, si vous voulez, une réflexion, une prise de conscience, parce que disons que les images stigmatisantes, stéréotypées se reproduisent à partir du moment où elles ne sont pas considérées comme problématiques par ceux qui vont les véhiculer, parce qu'on a l'impression que c'est une représentation naturelle, normale, alors qu'en fait... c'est le fruit d'une construction, en fait, une construction sociale, une construction historique, qui est la résultante de plusieurs années de représentation et de domination de ces populations. Donc, je pense que c'est un manque de prise de conscience qui fait que les choses ne changent pas. Et donc, il faut déconstruire ces représentations en proposant des représentations alternatives. Et effectivement, en ayant un débat déontologique sur la question de la part de la profession, en fait.
En fait, il semblerait qu'il n'y ait pas d'intérêt global pour le continent dans sa diversité, puisqu'on voit qu'il y a des pays qui sont beaucoup plus traités que d'autres, et on noircirait peut-être un petit peu le trait, mais juste un petit peu, en disant que pour certains médias français, en regardant dans le détail, l'Afrique apparaît comme un seul pays, alors qu'il y en a quelques 54. Est-ce que c'est un manque de curiosité aussi, peut-être, de la part des journalistes ?
Alors, c'est peut-être un manque de curiosité, certes. C'est aussi peut-être un manque de moyens aussi, qui fait qu'on ne met pas forcément tous les moyens pour aller sur le terrain, pour faire un travail de fond, pour avoir une vision un petit peu plus réaliste et un petit peu plus diversifiée du continent. Mais je pense encore aussi que c'est une perception de ce continent qui s'explique aussi pour des raisons historiques.
Ce qui fait aussi qu'il y a un tropisme pour l'Afrique francophone et qu'on délaisse le reste de l'Afrique, que ce soit l'Afrique australe ou même le Nigeria, qui au final est très peu traité sur les télévisions françaises.
Exactement, tout à fait. On va plutôt prendre effectivement ce qui est en lien direct avec la France, l'Afrique francophone, etc., qui montre effectivement les rapports importants historiques, culturels que la France peut encore entretenir et entretient toujours avec ce continent. Et je pense aussi que c'est parce qu'on a toujours une vision, en fait, de l'Afrique qui n'est pas très complexe, hein, si vous voulez, et qui renvoie à une représentation de tout ce qui n'est pas blanc ou français ou autre, une représentation, si vous voulez, qui est un petit peu anonyme. C'est un petit peu ce que disait effectivement déjà Albert Memmi dans son ouvrage « Portrait du colonisé, portrait du colonisateur ». Il y a cette représentation un petit peu de l'autre avec un grand A, celui qui est différent de nous, qui est sous une sorte d'enveloppe anonyme non distincte. Et puis surtout, je pense aussi qu'il y a tendance à un petit peu ghettoiser ou parquer l'information relative à ce continent que, effectivement, sur des médias dédiés ou sur des médias plus internationaux qui s'adressent à un public francophone, etc. Et que il serait bon, effectivement, de montrer aussi cette représentation dans les médias généralistes, mainstream, dans les éditions destinées à un public généraliste, pour montrer effectivement les liens que nous avons de toute façon historiques avec ce continent, les personnes issues de ce continent, et surtout, il faut prendre conscience que beaucoup de Français sont originaires de ce continent, habitent en France, ont un lien culturel, une histoire, et que donc ça paraîtrait effectivement logique qu'ils soient plus présents sur les médias généralistes, et puis qu'on montre aussi une représentation d'une Afrique moins prise dans le chaos, une représentation moins misérabiliste, moins paternaliste, qui nous font penser aux anciennes représentations de l'époque coloniale, et puis de montrer différents aspects, différentes initiatives. Et on l'a vu pendant la crise effectivement du coronavirus, on a toujours cette idée un peu d'une Afrique dépendante, dans le chaos, qui a besoin d'être prise en charge, etc., qui n'est pas maître de son destin. On a vu déjà pendant la crise, pendant le coronavirus, je me souviens sur une chaîne de télévision, il me semble que c'est LCI, il y avait une personne invitée qui avait proposé, par exemple, que l'on fasse des tests pour trouver un nouveau vaccin sur les Africains. Oui, bien entendu, puisque Africains d'une nationalité. Et par ailleurs, des chercheurs issus de ce continent, il me semble, travaillant au Canada, ont écrit une tribune dans Le Monde pendant le confinement en expliquant qu'on gagnerait aussi à prendre, à s'inspirer des expériences des scientifiques africains, des personnes sur le terrain qui ont eu l'expérience effectivement d'avoir une épidémie ou une pandémie dans son pays. Donc il y a toujours cette vision un petit peu misérabiliste de que dans un seul sens, de montrer effectivement la France protectrice qui va venir en aide, etc., et pas forcément montrer aussi toute une réalité d'un continent immense.
Voilà, ce qu'il serait bien, c'est aussi d'insister sur les expériences acquises et les réussites parfois de différents pays africains face à des crises. Et là, j'imagine que vous pensez notamment à la lutte contre Ebola, qui a permis d'apprendre énormément, et tout ce qui a été appris a permis de lutter efficacement pour l'instant contre la crise du coronavirus.
Voilà, complètement. Et comme ça, on n'arriverait pas à l'absurdité de se dire qu'on n'a pas besoin de masque pour lutter contre un virus, par exemple. C'est tout simple, mais ça aurait effectivement être une source d'inspiration.
Que doivent, à votre avis, faire ceux qui produisent les journaux télévisés des chaînes françaises pour parler plus et surtout parler mieux de l'Afrique ? Vous parliez déjà de commencer par déconstruire un passif.
Oui, tout à fait. Donc moi, je pense que c'est effectivement le débat, la prise de conscience, pourquoi pas une formation, enfin encourager la formation des professionnels des médias pour voilà avoir conscience des stéréotypes, des images attendues et comment effectivement lutter contre, les déconstruire, etc. Donc prendre conscience effectivement de la situation. Et puis dans un deuxième temps, je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est aussi de colorer un petit peu, ou en tout cas de diversifier les professionnels des médias eux-mêmes, dans les rédactions, aux postes décisionnaires, pour qu'il y ait effectivement des personnes originaires ou issues de ce continent, ou étant en lien avec ce continent, qui pourraient apporter voilà, d'autres visions, d'autres récits, d'autres réalités. Donc ça pourrait être intéressant. Et je pense aussi que pour sortir de ce que j'évoquais antérieurement, à savoir une tendance à si vous voulez, ghettoiser, à parquer un petit peu l'information qui concerne ce continent dans des médias dédiés ou en tout cas pas forcément dans les médias généralistes, pourquoi pas effectivement imaginer des ponts entre différents médias, c'est-à-dire entre des médias généralistes, entre des médias plus spécifiques qui s'adressent à une diaspora ou une communauté particulière, ou voilà, créer des liens. Et par exemple, moi, je pense à ça en tant notamment que lectrice du Monde, où je remarque que là, c'est de la presse écrite, mais aussi dans la question de l'information. On se rend compte, par exemple, que il y a certains articles dans Le Monde lui-même en presse écrite. Qui viennent de la rédaction du Monde Afrique et qui proposent voilà certains éclairages, que ce soit économique, politique, culturel. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que l'information sur l'Afrique et ce continent ne devrait pas intéresser que les Africains eux-mêmes. Ça peut intéresser effectivement toute la société française, car je le rappelle, les liens que nous entretenons avec ce continent sont très forts. Autant culturel que historique, et il y a vraiment des ponts du fait de populations françaises originaires de ce continent. Donc, ça pourrait effectivement donner une autre lumière, une autre représentation des sociétés africaines.
Merci Marie-France Malonga. Je rappelle que vous êtes sociologue des médias. Votre regard est précieux et lucide par les temps qui courent. À bientôt dans l'atelier des médias.
Je vous en prie, merci.
C'est ainsi que s'achève cette émission. Si vous l'avez attrapée au vol à la radio, sachez que vous pouvez la réécouter dès maintenant et en version longue en podcast. Simon Decreuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je vous invite à réécouter nos derniers podcasts. La semaine dernière, j'étais dans les bureaux parisiens de CNN. Le présentateur Cyril Vanier, un des visages de la chaîne américaine, m'a expliqué comment elle se positionne face au président Donald Trump. La semaine prochaine, je tendrai mon micro à la journaliste youtubeuse Aude What the Fake. Elle est spécialisée dans la lutte contre les fausses nouvelles et les théories du complot. Je m'appelle Steven Jambeau, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.